Encore une devinette. Est-ce que vous la connaissez? Comment ça? Vous ne les côtoyez pas, ce genre de filles? Non? Ben, c'est un tort. Eh oui. C'est un tort. Enfin, ça dépend comment on le prend, mais ça peut être un tort. Qui suis-je? Non? Pas d'idée. Une super jolie femme. La dernière fois, je suis un peu comme ça, moi, hein, peut-être. La dernière fois, c'était Miss Univers avec la femme d'Abraham. Ah, c'est pas la femme d'Abraham, elle. Qui c'est que j'ai cru entendre? Non? Rahab, oui, ben oui, Rahab. Une prostituée dans une église. Ça vous choque? Mais j'espère. Moi aussi, ça me surprend. Et pourtant, ben, Dieu a envie de nous surprendre, je crois. Alors, une fille de joie qui peut être aussi une fille de foi. Ouais. Cette histoire se passe dans le livre de Josué. Est-ce qu'on a le temps de... On va peut-être pas tout lire, si. Parce que c'est long, hein, Josué. On va pas lire jusqu'au bout, mais... Josué 2. De Sittim, Josué, fils de Noun, envoya secrètement deux hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne. Allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et arrivèrent à Jéricho. Ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y passèrent la nuit. On prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés la nuit, pendant la nuit, pour reconnaître la région. Alors il envoya dire à Rahab, « Livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner le pays. » Mais la femme emmena les hommes et les cacha, puis elle répondit, « Effectivement, les hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais qu'ils étaient. Et quand on allait fermer les portes, ils sont repartis à la tombée de la nuit, et je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez peut-être encore les rattraper. » En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangé là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au gué du Jourdain, et dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma les portes derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes. Avant qu'ils ne se couchent, elle leur dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays, la terreur s'est emparée de nous, et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. » Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment ils vous avez traité les deux rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel, en les exterminant, depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même bonté et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs et tous les membres de leur famille et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. » Les deux hommes lui répondirent, « Notre vie répondra de la vôtre pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. » On peut continuer. Allez. Or, la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi, elle put les faire descendre, les deux hommes, par la fenêtre, au moyen d'une corde. « Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent, et cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. » Et les deux hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille. Et si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un d'eux, ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. » Voilà, on va s'arrêter là. Un autre texte qu'on trouve dans Hébreux 11, « Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu, parce qu'elle avait été accueillie parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Jacques 2, Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes, lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Et un dernier verset, Matthieu 1, verset 5, « Et Salomon engendra Boaz de Rahab, et Boaz engendra Obed de Ruth, qui engendra jusqu'à Jésus. » Voilà, comprenez maintenant pourquoi j'ai mis ma chemise rose. Et j'ai pris la Bible pour les femmes. Non, c'est juste un peu pour me détendre. Mais elle est bien, elle est comme les autres en fait. C'est juste les... Voilà. C'est... Alors qu'est-ce que... Voilà, j'ai à cœur de partager cette histoire avec vous depuis... Pas de la partager avec vous depuis longtemps, mais moi je réfléchis depuis longtemps à cette histoire de Rahab. Une fille particulière, enfin une femme particulière. Le Nouveau Testament en parle 3 fois. Donc c'est bien qu'elle a quelque chose de particulier. Je crois qu'elle a beaucoup à nous apprendre. On a chanté des choses sur la grâce de Dieu et je crois que cette femme a beaucoup à nous apprendre sur la grâce infinie de notre Dieu. Nous avons tous une grande valeur aux yeux de Dieu et je crois que là pour le coup on peut pas dire le contraire. Hein. Elle nous invite aussi à revoir peut-être notre manière de percevoir les gens qui nous entourent. Elle a une leçon à nous donner sur une foi vivante, une foi en action, et du coup, de nous poser chacun la question, est-ce que ma foi est vivante, ou est-ce qu'elle est morte, ou est-ce qu'elle est peut-être simplement en sommeil, un peu comme les ordinateurs qu'on met en veille, et des fois même en veille prolongée. Et sur notre attitude aussi, vis-à-vis des membres de notre famille. Alors notre famille de sang, mais notre famille aussi spirituelle, qui est l'Église. Je crois qu'elle a aussi des choses comme cela à nous apprendre. Donc ces réflexions, elles sont d'abord pour moi, elles sont après, vous en ferez ce que vous voudrez, elles sont pour chacun de nous, et elles sont surtout sans esprit de jugement, parce que je sais qu'il y a peut-être des choses qu'on a vécues dans l'Église qui recoupent un peu tout ça, mais c'est pas du tout pour donner une leçon à qui que ce soit, c'est simplement pour se laisser interpeller, parce que ce texte a à nous dire. Donc cette ville, est-ce qu'elle ressemble un peu à... ou ce pays, à ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, il me semble, sur plusieurs points, certainement. Cette ville et ce pays de Canaan, c'était un peuple et un pays qui ne voulait pas de Dieu. Comme le décrit Rahab, ce Dieu qui est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Ils s'étaient construits leur Dieu aussi. Je crois que j'ai lu des trucs beaucoup sur le soleil et tout ça. Il y a même des sacrifices d'enfants vivants qui étaient brûlés vifs et j'en passe. Alors peut-être, je dirais même pire que ce que nous vivons actuellement dans notre monde. Son pays était rempli de violence et de perversion, dont l'inceste et la bestialité étaient présents. Et ça, vous pouvez le retrouver si vous voulez contrôler. Et vous pouvez le faire. Hein. Lévitique 18 et le reste nous décrit un peu ce qui se passait dans toutes ces pratiques là-bas. La religion y était pour beaucoup. Les temples servaient aussi à la prostitution sacrée. Et voilà, il y avait beaucoup de cultes rendus à de faux dieux. Dieu a attendu avec patience pour ce peuple aussi. J'ai au moins 40 ans, puisqu'ils auraient dû rentrer il y a 40 ans dans ce pays. Mais comme il n'y a pas eu de changement, le jugement pour ce pays arrive par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Et je crois qu'il en est de même un peu pour le monde dans lequel nous vivons. Dieu est patient aussi envers notre monde. Voilà 2000 ans qu'il nous a manifesté la grandeur de son amour en nous donnant son Fils, Jésus. Mais sa patience aussi, elle aura une fin. Alors ouvrons nos cœurs à cette bonne nouvelle que Jésus est notre seul moyen de salut et accueillons sa grâce. On en a parlé de cette grâce, mais reste à nous à l'accueillir car aujourd'hui est encore un jour de grâce de notre Seigneur pour tous les hommes. Et Hébreux dans... cette lettre aux Hébreux, nous trouvons au chapitre 3, verset 7, c'est pourquoi prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. Voilà un petit peu pour, j'irai planter le décor de pourquoi il y a des similitudes. Alors, j'ai eu le privilège, là, ces deux derniers week-ends, de marier 2 neveux, donc c'est chouette. Nous ont fait un peu courir, un à Briançon, un à Paris, pour peu qu'on soit parti en vacances sur l'océan, on a fait un peu le tour de la France. Et ce qui est chouette, en rentrant de vacances, je me suis arrêté à Jéricho. En fait, je savais pas qu'il y avait Jéricho en France. Et je suis tombé sur une ville, non, elle s'appelle pas Jéricho, elle s'appelle Carcassonne, mais ça ressemble. En fait, je voulais toujours m'arrêter à Carcassonne, et voilà, on s'est arrêté à Carcassonne, et c'est vraiment impressionnant. Et après, je suis allé à Briançon, qui est pareil, une ville fortifiée, genre Jéricho. Donc, voilà, super chouette. Tout ça pour vous dire que j'ai fait deux mariages. Donc, voilà. Non. Ces deux neveux, en fait, ils ont une histoire particulière, mais pas si particulière que ça, en fait, parce qu'elle ressemble à beaucoup de celle de nos jeunes, de nos églises ou pas, d'ailleurs. Hein. Ils ont vécu avec leur compagne depuis, il y en a un 5 ans, l'autre je sais pas combien. Et voilà, ils sont... c'est mes neveux directs par mes deux autres frères, donc ils ont grandi dans des familles chrétiennes et tout ça, puis un jour ils ont décidé, ils ont trouvé une fille, et puis ils se sont mis avec, et ils ne sont pas mariés tout de suite, ils ont cheminé, et voilà, toute une histoire que vous pouvez imaginer, que vous avez peut-être dans vos familles d'ailleurs. Et je me dis, tout ça m'a amené à penser à ce qui s'est passé avec Rahab. Donc c'est pour ça que je voulais m'arrêter un peu là-dessus, et que ça nous aide à avoir une approche peut-être différente de celle qu'on peut avoir quand on est un peu en marge des clichés chrétiens. Voilà. Alors je suis pas en train de dire que c'est bien ce qu'ils ont fait, hein, que voilà, ne vous mariez pas tout de suite. C'est pas mon propos, hein. Je pense que le mariage est voilà une institution de Dieu, mais néanmoins la réalité est là, et voilà, il se passe des choses comme ça dans nos familles. Alors est-ce que je les accepte ou pas? Est-ce qu'on coupe les portes, les ponts, ou est-ce qu'on ferme les portes? Est-ce que, je sais pas. À chacun de nous de faire ce choix. Mais j'aimerais simplement par ce texte et nous aider à peut-être à avoir un autre regard sur ces choses-là. Donc puis j'ai même une autre histoire en fait qui ressemble un peu à... Alors ça n'a rien à voir avec le mariage. C'est pour ça que peut-être elle est bien. J'ai une amie de mon ancienne église de Livron qui est célibataire, qui a à peu près mon âge, hein. Voilà. Et elle est visiteuse de prison. Je l'ai rencontrée il y a pas très longtemps, et elle est tombée amoureuse d'un détenu, forcément. L'histoire, alors c'est pas la Casa des Papels, hein, si vous avez, voilà. Mais ça ressemble un peu. Sauf que, voilà, ce détenu, je vais pas vous raconter son histoire, mais il a fait des choses terribles, notamment envers son ancienne femme. Et elle a décidé de se marier, cette amie. Elle veut se marier. Bon, c'est pas fait, mais voilà, c'est en cours. Et tout en discutant avec elle, il y a voilà des gens portés de bonnes intentions. Je pense que sincèrement, au départ, ça part d'une bonne intention, mais l'ont mis en garde. Et voilà, je pense que sauf qu'il y a manière de le faire, comme pour nos jeunes d'ailleurs, hein, parce que moi, je peux vous dire, je l'ai vécu dans ma famille. La mise en garde, des fois, est un peu violente par des coups de versets bibliques qui font très mal. Et j'ai senti en elle, cette femme, qu'elle avait eu de la souffrance dans les propos des gens bienveillants qui ont voulu lui dire attention, tu vois, je peux comprendre, hein. Et j'étais le premier, quand j'ai appris ça, à dire ouais, elle prend un sacré risque, quoi. Mais pourtant, on va voir que ça rejoint un peu l'histoire de Rahab. Voilà, juste pour dire que je veux pas mettre l'accent que sur ceux qui ne se marient pas tout de suite. Mais il y a plein de choses comme ça où on a un accueil peut-être un peu violent envers ces gens-là. Donc attention. Et je crois que l'histoire de Rahab va nous aider à réfléchir à tout ça. Donc Rahab était une prostituée. Et j'ai lu que certains commentateurs, ça les dérange vachement en fait ce terme. Et ils ont préféré dire que c'était une aubergiste. Ah, c'est sûr que ça passe vachement mieux, hein. Surtout dans une église et voilà partout où on parle de Rahab. Ouais, c'était simplement une aubergiste qui tenait son auberge, elle a accueilli ceci ou cela. Bon, on va pas polémiquer là-dessus. Peu importe, je pense que oui, elle était certainement une prostituée et voilà, il faut le prendre comme tel. Et Dieu n'est pas à court de ressources, donc pourquoi pas, je me dis. Hein. Et je me dis surtout, qui aurait mis une pièce sur Rahab? Qui d'entre nous, là, si Dieu t'avait dit, tu vois, t'as Jéricho, là, ou un truc qui ressemble, Carcassonne, par exemple, allez, au hasard, tu dois sauver quelqu'un dans cette ville. Sur qui tu mets la pièce? mon avis, tu vas regarder un peu comme on fait tous, hein, moi le premier. C'est pour ça que c'est pas un jugement, hein. Mais tu vas mettre la pied sur quelqu'un qui fait des trucs sympas, qui s'occupe des gens, qui fait ceci, qui fait cela. Il devait y en avoir à Jéricho, je suppose. Ils n'étaient pas tous. Enfin, je sais pas. J'imagine une ville un peu comme on a au milieu de nous. Et pourtant, Dieu. En fait, Dieu met son choix sur cette femme. Surprenant. Je pense que déjà, cela m'interpelle. Trop souvent, je regarde à l'apparence des personnes et je vais même jusqu'à penser, alors je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais celui-là ou celle-là, je pense que ça va être compliqué si on finit ensemble dans le monde de nouveau. Non, ça vous est jamais arrivé. Des fois, les gens qui vous insupportent, ils disent, mais c'est pas possible, il peut pas finir, il peut pas passer l'éternité avec moi. Lui, c'est... Enfin, bon, ça vous est peut-être jamais arrivé, mais des fois, moi, je suis pas loin de ça. Alors, si jamais ça vous arrive, ce genre de choses, je vous invite à retenir ce texte de Matthieu 7, verset 21. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Alors attention, je crois que même si ça nous est arrivé, ou si toutefois on a tendance à penser avoir de telles pensées, alors n'oubliez pas Matthieu 7, ça peut nous aider. Je pense que Rahab devait savoir au fond d'elle que son mode de vie était immoral. Peut-être comme beaucoup de personnes qui mènent ce genre de vie aujourd'hui se sentaient-elles piégées, sans autre moyen de prendre soin de sa famille. Mais son cœur était différent des autres habitants de Jéricho, et ça, Dieu le voyait. Alors je crois que nous connaissons tous, comme je le disais, des personnes qui fréquentent ou pas d'ailleurs une église et qui vivent en couple sans être mariés ou qui n'ont pas une vie sous d'autres aspects qui correspondent à notre modèle de bon chrétien. Vous savez l'image qu'on se fait du... C'est vraiment notre image, hein, parce que des fois on tolère des trucs dans nos vies qui sont pas terribles, enfin même pas très glorieux du tout. Et par contre, chez les autres, le moindre petit truc, ça y est, là, on... du genre, voilà, c'est un peu mon histoire, ça, hein. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Super, ce verset, hein. Des fois, on les dégaine comme ça, là, et ça peut faire hyper mal. Alors, si des fois, vous avez, j'ai encore un petit truc, là. Si des fois, vous avez envie de sortir des versets un peu, vous savez, violents. En fait, il y a une part de vérité complète dans ce verset. Du joug mal assorti, tout à fait. Mais est-ce que la personne est prête à l'entendre? Est-ce que son joug est mal assorti à l'époque où ça se passe? Ça, j'en sais rien. Et puis, quelque part, c'est même pas à moi en juger. Mais je vous laisse un autre texte qui peut porter, nous aider à réfléchir. C'est l'histoire de Samson. Moi, ça m'a vachement interpellé, ce truc. Parce que c'est assez troublant, d'ailleurs. Mais Samson dit à son père, c'est elle, donc cette fille des Philistines, que je juge bon de prendre. Va la demander pour moi. Et qu'est-ce que nous dit le texte? Ses parents ne savaient pas que cela était dirigé par l'Éternel. Ouah. Voilà. Là, je me dis, chapeau, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On lui dit, ben non, t'y vas pas. Sauf que si c'est dans le plan de Dieu, enfin, je sais pas, hein, je vous laisse la réflexion de ce texte. Mais si des fois vous avez envie de faire des leçons un peu trop rapides, je pense qu'il y a quelques textes comme ça sur le jugement et cette approche qui peuvent nous aider à freiner un peu nos propos. Donc ces versets qui font tous les faits inverses sur la personne, car nous ne savons pas ce qu'elle vit ou qu'elle a vécu. Ne nous plaçons pas à la place de Dieu. Si vous êtes un jour tenté de faire cela, alors pensez à Rahab qui était cette prostituée, mais que Dieu a bien voulu venir prendre là où elle était. Et avec la vie qu'elle menait, voilà, il y a eu tout un cheminement, mais je pense que des fois il faut simplement laisser un peu du temps aussi aux personnes et leur accorder un peu, vous savez, cette grâce de Dieu qu'on aime bien recevoir. Je crois que on ferait bien aussi, nous aussi peut-être, d'user un peu de grâce envers notre prochain et nos semblables. Donc les temps que nous vivons nous poussent aussi, oui, en fait c'est mon autre point de Rahab, voilà. Un bel exemple de foi. Je crois qu'elle a beaucoup à nous apprendre à ce niveau-là. Hein. Les temps que nous vivons nous poussent à penser que nous allons avoir besoin plus que jamais de bien ancrer notre foi en Dieu. Même si notre vie n'est pas l'idéal de ce que nous aimerions, Au niveau spirituel, ne nous décourageons pas, mais au contraire, encourageons-nous les uns et les autres pour que notre foi grandisse et s'affermisse. Elle avait entendu beaucoup de choses sur les grandes victoires du peuple d'Israël. Je la cite, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays, la terreur s'est emparée de nous, et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous, car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel. » Voilà, je crois qu'elle avait entendu tout ça, et ça a pris le temps que ça a pris, mais ça a fait son chemin, et au final, on s'aperçoit que la foi de Rahab est grande. Et ce texte de Romains 10, verset 7, la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Voilà, je crois que nous avons plus que Rahab, nous aussi, la révélation des plans de Dieu pour le monde. La vie de Jésus sur notre terre, la croix, la résurrection, et en plus le cadeau du Saint-Esprit, dans la mesure où nous l'accueillons dans notre vie, et si nous lui laissons peut-être aussi un peu de place en nous mettant à son écoute. Et peut-être même que si on se met à l'écoute du Saint-Esprit, on entendra de la part de nos ennemis des paroles réconfortantes, comme les espions ont pu l'entendre de la part de Rahab. Et oui, il n'y a pas que dans l'Église où on entend la voix de Dieu, et non. D'ailleurs, des fois, on n'entend pas la voix de Dieu dans l'Église, on entend plus la voix des hommes que la voix de Dieu. Donc ça serait peut-être bien de faire taire un peu la voix des hommes et d'écouter la voix de Dieu, mais je crois que Dieu aussi peut nous parler par plein de circonstances en dehors. Et je cite encore Rahab, « Je sais que l'Éternel », c'est au verset 9, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays, la terreur s'est emparée de nous, et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque, et personne n'a plus de courage de vous tenir tête. » Et oui, je veux dire, les espions, ils sont repartis avec un message quand même, voilà. La première fois, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire des premiers espions qui sont rentrés, ils ont dit, ouais, à leurs yeux, on est comme des sauterelles, n'y allez pas, ça craint, machin et tout, alors que Dieu leur avait dit, allez-y, je vous ai donné le pays. Sauf que voilà, si vous connaissez pas l'histoire, vous relisez dans, je crois que c'est Nombre 14, enfin ou par là. Et y a un autre homme aussi qui a fait l'expérience de cet encouragement de la part de ses ennemis à quelque part. Alors, nous on sera peut-être pas encouragés parce qu'on n'a pas vraiment peut-être des ennemis en dehors, bien que, pourquoi pas. Mais je sais pas, par la parole d'un collègue qui peut très bien être porteuse de ce message de Dieu. Juge 7, verset 9, ça s'adresse cette nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon, « Va, descends attaquer le camp Madianite, car je le livre en ton pouvoir. Cependant, si tu as peur d'y aller, vas-y d'abord avec ton serviteur Pourra. Écoute ce qu'ils disent et cela t'encouragera et tu descendras ensuite attaquer le camp. » Voilà. Alors Gédéon, voilà, on va pas parler de Gédéon tout de suite, mais Gédéon aussi, il avait un peu peur de ce qui se préparait, et il a été encouragé par ce qu'il a entendu, ce rêve que cet homme avait fait, que Dieu lui donnerait la victoire sur ses ennemis. Et je crois que voilà, c'est quelque chose aussi qui peut nous encourager pour affermir notre foi. Et nous sommes invités aussi, à l'exemple de Rahab, à mettre notre foi en action. Rahab a usé de bienveillance envers les espions, et cela aussi, Dieu le remarque. Jacques 2, que je vous ai déjà lu, mais que je vous relis, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes, lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? S'il n'y a pas d'actes qui accompagnent notre foi, alors posons-nous la question, peut-être, ma foi est-elle bien réelle et vivante? Alors peut-être tu sais pas ce qu'il faut faire, ce que Matthieu 5, 25, c'est Jésus qui parle, car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous, j'étais nu et vous m'avez donné des vêtements, j'étais malade et vous m'avez soigné, j'étais en prison et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire ou étranger et avons-nous accueilli ou nu et avons-nous t'avons-nous vêtu, oui, ou malade ou prisonnier, et sommes-nous venus te rendre visite ?» Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Je crois que voilà, la foi en action, la bienveillance que nous relate ce texte à propos de Rahab, je crois que c'est quelque chose que nous devons être attentifs à tout ce qui se présente à nous. Et ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Éphésiens 2, c'est une parole de Paul aux Éphésiens qu'on trouve. Déjà, en fait, tout est prêt. Est-ce que je suis simplement disposé et disponible pour me mettre en action pour entrer dans et accomplir simplement les choses que Dieu a préparées à l'avance, comme il nous le dit, ou qui prépare voilà, à l'avance ou au fur et à mesure, peu importe, mais voilà, les circonstances se présentent et il y a simplement plein de choses à faire pour que ma foi soit vraiment en œuvre. Et puis il y a ce fil écarlate qu'il faut accrocher à la fenêtre. Et elle le fait sans attendre, comme on l'a vu. Elle leur répondit, d'accord, que les choses soient comme vous l'avez dites. Puis elle les fit partir et ils s'en allèrent aussitôt. Elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. En fait, sa vie, elle tient qu'à un fil. Vous savez, on le dit des fois. Mais là, pour le coup, elle tient qu'à un fil. En réalité, je suis pas tout à fait sûr qu'elle tienne qu'à un fil. Je pense que le fil, il est pas pour grand chose, lui, hein. Il y a plutôt une symbolique dans ce fil. Mais bon, néanmoins, il fallait l'accrocher. Il fallait l'accrocher et elle l'a fait sans attendre. Je crois qu'il faut saisir la symbolique de ce cordon. Il nous rappelle le sang qui avait été mis sur le linteau et sur les poteaux des portes en Égypte. Et à cause de ce sang, si vous vous souvenez un peu de cette histoire, pour ceux qui connaissent pas, vous allez sur Google, il vous expliquera tout, il vous mettra sur les bons chapitres, vous verrez, c'est super, ça marche tout seul. Et vous verrez que du coup, le peuple, le premier-né des enfants du peuple, enfin tous ceux qui étaient à l'abri de ce sang, ont été épargnés. Et pour nous, il nous parle du sacrifice de Jésus à la croix, rouge comme le sang qui a coulé, et qui peut nous épargner de la colère de Dieu qui vient sur notre monde dans lequel nous vivons, un peu comme Rahab qui savait, en fait, comme elle le dit clairement, que en fait son peuple, son pays allait être pris. De toute façon, Israël allait renverser parce qu'elle avait entendu tout ça. Elle était convaincue de ce qui allait se passer, qu'elle savait que ce qui allait se passer. Et nous savons, je crois, que ce qui va se passer pour notre monde. Mais nous avons aussi ce privilège d'accrocher ce cordon, ou pas, justement, à notre fenêtre. Alors je crois que c'est important peut-être de s'arrêter un instant et de réfléchir à cela. Donc nous avons le choix de le faire. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique pour que qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui place sa confiance en lui n'aura pas à subir de condamnation, mais celui qui lui refuse sa confiance est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Alors, comme Rahab, n'attendons pas que l'armée commence à tourner autour des murailles pour attacher le cordon. Je crois que cet acte de foi, elle l'a fait tout de suite. Mais lisons simplement à Dieu. Oui, je veux mettre ma confiance en toi, maintenant et tout de suite. Voilà, je vous invite à...
Il y a un dernier point. Elle a une belle leçon pour nous au niveau de sa famille. Et oui, vous avez vu, hein, elle a demandé tout de suite, elle a fait un deal avec les espions. Elle a dit, voilà, moi je vous ai sauvé la vie, maintenant, en contrepartie, qu'est-ce que tu fais pour moi? Et qu'est-ce qui se passe? Elle dit, voilà, moi je veux que mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs... Oh, non, c'est pas ça. C'est, voilà, mes frères et mes sœurs et tous ceux de ta famille, ben, je veux que tout cela soit sauvé avec moi. Ils acceptent. Ils lui disent, écoute, pas de problème. Si tu tiens le secret et tout ça, tous ceux qui seront dans ta maison, il se passera rien pour eux, ils auront la vie sauve. Et je crois que c'est un bel encouragement aussi pour nous. Nous qui connaissons donc le Seigneur, nous sommes aussi porteurs de ce message d'espoir et de bénédiction que nous devons communiquer et transmettre autour de nous. Voilà, comme Jésus nous le demande. Vous savez, l'histoire des commandements, là, les petits malins de pharisiens et à qui on ressemble un peu, c'est pour ça que je me permets de dire ça, qui sont voilà, les petits malins. Dans la loi, quel est le plus grand commandement? Alors Jésus lui dit, mais le second lui est semblable. Il y a un second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je crois que ça aussi, c'est important de ne pas l'oublier. Est-ce que je suis prêt aussi à communiquer, sachant tout ce qui va se passer pour notre monde, est-ce que je suis prêt à communiquer ce message autour de moi? Et je crois que c'est une belle leçon. Mais revenons plus à la famille. Voilà. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire? Ça m'a fait penser tout de suite à l'histoire de Lot. Lot, il s'est passé un peu le même truc que Rahab. Sauf que Lot, il est parti qu'avec deux filles. Il en a perdu un peu dans le jugement qui est tombé. Et pourquoi? Et en fait, qui as-tu encore? Donc ça, c'est les deux hommes qui sont venus à voir Lot. Qui as-tu encore de ta parenté dans cette ville, des gendres, des fils ou des filles? Qui que ce soit, fait les sortir de là. Car nous allons détruire cette ville parce que de graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les maris de ses filles. « Allons, leur dit-il, il faut quitter ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres prirent ses paroles pour une plaisanterie. Je crois que c'est intéressant de manière de communiquer avec notre entourage. Alors, comme je l'ai dit, hein, à coup de versets bibliques qui ont une part de vérité et qui font mal, ou peut-être, certains, je sais, pensent que quand tu vis comme ça, machin, il faut couper les ponts et tout. Ouais, je porterai pas de jugement, mais je pense que ce texte, il m'apprend autre chose. Et tout simplement que si Rahab, malgré ce métier qu'elle exerçait, je pense qu'il était franchement pas glorieux dans son entourage. Hein. Si j'avais une fille ou quelqu'un, grâce à Dieu, c'est pas le cas. Mais de mon entourage, elle fait le plus vieux métier du monde. Quand on me demande ce que fait ma fille ou quelqu'un, je pense que c'est pas très glorieux. Mais néanmoins, cette femme n'avait pas coupé. Quand elle a dit à son père, sa mère et tout le reste de sa famille de venir parce qu'il allait se passer ceci ou cela, le jugement allait. La ville allait être détruite. On s'aperçoit qu'ils sont tous entrés dans la maison, ils ont tous été sauvés avec Rahab. Donc je crois que c'est une belle leçon de comment je véhicule ce message d'espoir et cette bénédiction que Dieu nous accorde à nous qui avons le privilège de le connaître. Je pense que c'est plus qu'important, particulièrement de nos jours, de faire attention à tout ça parce que de ne pas être une pierre d'achoppement pour parce qu'en fait ça peut vraiment faire l'effet inverse et on peut bloquer certaines personnes, voire les mettre en révolte contre Dieu, alors que on n'est pas du tout appelé à cela, plutôt à laisser ruisseler cette bénédiction. Voilà, et puis Rahab, donc il s'est passé ce qui s'est passé, on va pas rentrer dans les détails, le peuple a tourné, il y a eu un certain laps de temps entre le temps où les espions sont venus chez Rahab et ils lui ont dit, tu mets ce cordon rouge, il s'est passé pas mal de choses, il y a eu la circoncision, il y a eu la Pâque, il s'est passé du temps, et ça c'est un peu l'épreuve de la foi, je crois aussi, donc que Dieu nous accorde de tenir ferme, elle a pas lâché, elle s'est dit, un jour ils vont revenir, et je sais que Dieu leur a donné cette ville et tout va s'écrouler. Donc voilà, que Dieu nous aide aussi à garder courage et à nous encourager les uns et les autres à faire grandir notre foi et qu'elle soit bien affermie. En conclusion, je dirais que l'histoire de Rahab montre que personne n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Voilà. Je sais pas si c'est le pire des exemples qu'on pouvait prendre, je ne sais pas s'il y a pire que ou pas. Prostituée, c'est déjà pas mal, surtout à notre époque. À leur époque, peut-être c'était un peu moins choquant, mais voilà. Mais néanmoins, Dieu est venu chercher cette personne, et je crois que c'est encourageant. Personne Même si tu te dis, non, je suis passé à côté de plein de choses, j'ai loupé ma vie ou j'ai fait des trucs qui sont impardonnables, je crois que non. Dieu peut lui seul te pardonner parce qu'il examine comme pour Abel. En fait, il regarde au cœur. Et je crois qu'il est vraiment très heureux, Dieu, quand il voit qu'il y a une petite étincelle de foi comme celle qui a illuminé le cœur de Rahab. Voilà, que par son exemple aussi, notre foi soit affermie et poussée à l'action. Comme on l'a vu dans les textes de Hébreux et de Jacques, ce qui est souligné, en fait, ce sont les actes de foi qui sont, je crois, tout simplement des fruits de l'esprit qui mettent en lumière la grâce et la gloire de notre Dieu. Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Alors que notre Dieu puisse nous venir en aide pour porter ses fruits pour sa gloire. Voilà, que Dieu nous bénisse et nous aide aussi à mettre en œuvre tout cela, et que cet exemple de Rahab puisse aussi rester dans nos esprits pour nous aider à affronter les réalités de la vie dans nos familles, pour qu'on puisse vraiment être les témoins de sa grâce et laisser à travers nous aussi couler cette bénédiction qu'il nous accorde. Amen.
Merci Jacques.